Radio-Télévision Suisse. RTBF.
Radio France.
Radio-Canada.
Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, nous avons choisi de vous porter vers l'ailleurs, de vous faire voyager par les ondes dans la France de l'Outre-mer, au Togo, en Suisse, en Inde et sur la route d'un vagabond. L'écrivain suisse Bruno Pellegrino raconte la vie d'une grande personnalité, un grand poète qui a marqué la littérature helvète. Gustave Roux a mené sa vie dans la contemplation et la lenteur. Nous porterons une réflexion sur ses vies en marge, ses vies menées dans la sobriété absolue. Nous irons aussi dans la France de l'Outre-mer avec les saveurs culinaires de la chef de cuisine Babette de Rosière. Reportage très très ambiancé dans un instant. Il sera question de la diffusion des livres Togo aussi, avec une éditrice togolaise, et nous vous conseillerons deux livres de poche, deux coups de cœur qui viennent de sortir et qui préserveront bien sûr votre budget.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et comme toujours, quatre libraires sont avec nous en multiplex. Thomas Auxerre est libraire dans la librairie L'Amandier à Puteau, à côté de La Défense, juste à côté de Paris. C'est presque Paris d'ailleurs. Bonjour Thomas.
Bonjour Emmanuel.
Comment allez-vous?
Oh bah écoutez, ça va super. Je suis très heureux d'être là avec vous.
Très bien. Bah nous aussi, Puteau c'est Paris presque.
Oh, Puteau c'est presque ouais, Paris. Bah, ouais,
c'est
absolument.
C'est plutôt Paris.
C'est juste à côté. Ouais.
Bonjour Jérémy. Bonjour Jérémy Laniel, désolé.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes le sévère libraire canadien, vous installé à Rosemère, librairie Carcajou. Comment allez-vous, Jérémy, sous la neige?
Je vais toujours très bien, il fait assez chaud aujourd'hui en
plus. Ah bah écoutez, ouais, ça se réchauffe, le printemps arrive. Bonjour Déborah Damblon.
Bonjour Emmanuel.
Vous vous représentez la Belgique dans la belle librairie La Licorne à Bruxelles. Et La Licorne est toujours sympathique chez vous, n'est-ce pas Déborah?
Mais bien sûr, oui, bien Emmanuel. Sûr.
Et enfin pour la Suisse, on retrouve Dominique Bressou qui est à Boudry dans la librairie Une Petite Prose. Bonjour Dominique.
Bonjour Emmanuel.
Depuis nos studios de la RTS, merci d'être avec nous tous les quatre. Bonjour Bruno Pellegrino.
Bonjour.
Vous êtes un jeune auteur suisse. Vous publiez un roman sur un célèbre poète helvète que vous allez faire découvrir à de nombreux auditeurs francophones, j'en suis certain. Nous parlerons d'ailleurs de ces vies simples, dépouillées, assez sombres que certains vivent tout au long de leur existence, ça a été son cas. Mais on commence par une anecdote personnelle, une histoire que je découvre en même temps que les auditeurs. Vous avez donc carte blanche. Ne me regardez pas comme ça, vous m'inquiétez déjà. Quelle est votre histoire, Bruno?
J'étais inquiet en recevant la demande. J'ai réalisé qu'il y a 10 ans, j'ai eu mon bac et j'ai décidé très banalement, comme plein de gens, de prendre une année sabbatique. Mm-hmm. Je me suis retrouvé à travailler dans un magasin d'électronique à Düsseldorf, ouais, en Allemagne.
Vous avez eu votre bac à 20 ans, donc
hein. À 19 ans,
ouais. Ouais,
c'est,
ça va.
C'est assez fréquent. et un jour, un monsieur, un vieil Allemand, est arrivé au rayon disque où je travaillais ces jours-là. Et m'a annoncé ma mort et celle de toute ma génération avant mes 30 ans. Il a annoncé en bel allemand austère que nous ne passerions pas la barre des 30 ans.
Ah bon?
Et cette anecdote m'est revenue récemment en me disant que j'aurais 30 ans dans 6 mois et que j'aurais peut-être la réponse à sa question.
C'est horrible.
Oui, mais ça m'est revenu, j'avais oublié cette histoire.
Ah bah oui.
Tant mieux d'ailleurs. Et tout à coup, voilà, elle est de retour. Donc on verra s'il avait raison.
Et il est crédible, vous croyez, cet homme-là?
Non, je pense pas.
Non, c'est un illuminé.
Un illuminé, mais...
Ou c'est un voyant qui est très, très réputé, par exemple.
Non, je pense que c'était un illuminé.
Je
on était quand même
peur,
au
hein.
rayon disque d'un magasin d'électronique. Hein.
Bon, restez tout au long de l'émission. Si on peut finir l'émission, ça m'arrange. Non mais Bruno, c'est pas possible. Non mais vous me faites presque de la peine. Arrêtez avec ça. Hein, vous enlevez cette histoire de la tête. Merci beaucoup pour cette anecdote. Bruno Pellegrino est dans la librairie francophone cette semaine. Babette de Rosière est la cuisinière créole la plus connue en France métropolitaine et en Outre-mer. Elle porte les saveurs des îles et a publié de nombreux livres sur le sujet. Nous sommes allés à sa rencontre lors d'un salon de la gastronomie créole qui s'est tenu à Paris début février. Babette de Rosière, la gastronomie dite de l'Outre-mer est très variée. On le voit ici, c'est très important parce qu'on a un métissage complet, total. C'est très beau à voir, vraiment. Il y a un mélange de couleurs et de saveurs en même temps. Et les livres de gastronomie créole fonctionnent très bien. Alors, les livres de cuisine marchent très bien en général, mais la gastronomie créole est en pointe en ce moment.
Mais vous savez qu'au départ, il faut que je vous resitue les choses. Nous, on avait l'habitude dans notre culture de mettre tout dans l'assiette. quand on mettait tout dans l'assiette, c'était de bien manger, on sentait qu'on était bien servi. Mais à un moment, il faut évoluer dans la cuisine. Et lorsque je me souviens, quand je leur avais dit, mais les mêmes produits, vous pouvez les cuisiner autrement, tout en gardant les meilleurs goûts, mais les présenter d'une façon plus délicate. Et bien maintenant, tout le monde s'y est mis. Et les chefs travaillent aussi nos produits. Et moi, ça me fait un bonheur inouï. C'est pour ça maintenant qu'on peut parler de gastronomie.
Alors, il y a plein de choses ici qu'on trouve. Le hachard de Jacques, par exemple, qui est une spécialité de La Réunion, qui est magnifique.
Et je l'ai cuisiné à La Réunion parce que c'est
merveilleux,
tout...
ça.
C'est merveilleux. Mais il faut savoir cuisiner et surtout éplucher.
Oui. Alors, racontez-nous, qu'est-ce que c'est que le Jacques?
Alors, le Jacques, c'est un énorme fruit vert. Et à l'intérieur, il y a une chair savoureuse. Mais la peau, alors il faut taper dessus pour enlever la peau. Et lorsque vous avez la peau, vous travaillez la chair, vous coupez en tout petits morceaux et vous faites comme une sorte de fricassé avec ça. C'est délicieux. Et vous savez que La Réunion, ce qui m'a épaté, c'est ce métissage. Le métissage au niveau de la population, bien sûr, mais le métissage au niveau de la gastronomie. Vous trouvez aussi bien des plats chinois que des plats réunionnais, que des plats un peu de Madagascar, des Comores. C'est tout un mélange et les plats sont à l'image de la population.
Quelles sont vos spécialités, Babette de Rosière? Parce que j'ai vu ici qu'il y avait le boudin de Babette. Alors vous avez comme ça des appellations d'origine contrôlée. Vous avez fait des marques en fait avec des plats créoles. Vous êtes un peu gonflé quand même.
Oui, mais je fais parler les plats, je fais parler l'imagination aussi. Et puis j'ai envie, quand les gens regardent l'appellation de mon plat, qu'ils aient envie de faire connaissance avec ce plat. Je fais une cuisine simple. Vraiment simple, sans chichi, goûteuse, mais dans la pure tradition de ce que m'a appris ma grand-mère, mais avec une légèreté, avec un design.
C'est vrai que c'est important le design, comme vous dites, parce que les livres de cuisine sont très appétissants. Et quand on regarde vos livres de cuisine, Babette de Rosière, on a vraiment envie d'entrer dedans, on a envie d'être avec vous, manger le plat que l'on voit en photographie.
C'est très gourmand. J'essaye de faire des livres à base des produits que l'on trouve partout. J'essaye de les marier, de métisser. De toute façon, quand je les marie, ils n'y vont pas. Ils sont contents, ils sont heureux. Et puis, j'ai envie de faire des livres pour les personnes qui ne savent pas cuisiner, parce qu'il y en a qui ne savent pas, qui n'osent pas se lancer dans la cuisine. Puis, ils disent, mais merde, il faut quand même que j'essaye ça, ça peut être pas mal.
On va où maintenant?
On va à Fonds-Santilles.
Alors, Babette de Rosière, quel est le plat que vous préférez cuisiner? Le plat créole que vous préférez et que vous conseillez?
Moi, le plat que je préfère... Je suis très tradition, moi. Chez moi, il faut savoir qu'il y a un plat traditionnel parfait par étape de la vie. On ne mange pas pareil à Noël qu'on mange à Pâques. On ne mange pas pareil à Pâques qu'on mange à la Pentecôte. Moi, mon plat préféré, vraiment, c'est le dombré. C'est comme des petits gnocchis qu'on fait nous-mêmes à base de farine... Très simple, qu'on roule entre deux doigts. Je fais ça avec du crabe, je fais ça avec du poisson, je fais ça aussi avec des queues de cochon. Si on peut le faire et l'accommoder avec n'importe quoi. Et ça reflète vraiment, vraiment, vraiment la tradition créole que j'ai connue quand j'étais enfant.
Alors, il y a ce livre qui est sorti, tout simplement Babette.
Voilà, c'est un livre que j'ai fait des petites choses simples pour permettre à la ménagère de manger correctement, sans faire des abus et sans grossir.
Le riz créole de Babette parfumé au gingembre.
Il n'y a pas de gras dedans, il n'y a rien. Tu as des quiches, tu as des tapes, il y a un peu de tout. Les gens trouvent leur bonheur, il y a un peu de tout.
Des pizzas, mais ce n'est pas créole ça.
Mais si, on fait des pizzas chez nous, on fait des
pizzas
chez nous. Des pizzas, mais j'en ai pas. Je vais vous raconter une histoire de pizza. Il y a Valérie Giscard d'Estaing qui était venue dans une de mes émissions. Et les réalisateurs, les producteurs me disaient, Babette, fais quelque chose de super pour Valérie. J'ai dit, non, je fais une pizza. Oh, scandale! Comment tu vas oser faire ça? J'ai dit, si, je fais ça. Parce que ce monsieur qui a fait le tour du monde, il a tout connu. Donc moi...
Oui, en tant que président de la République, voilà. Oui.
Donc j'ai fait une petite pâte toute fine. J'ai bien fait mon petit compoté de tomates fraîches, un peu pimentées. Et j'ai fait des petites rondelles de langoustes. J'ai mis des petits lambis, des fruits de mer de chez nous. Tous les produits de la mer des Caraïbes.
Le lambi, c'est un coquillage très prisé.
Mais oui,
très difficile à cuisiner d'ailleurs.
Oui, mais il faut savoir. J'ai donné ça à Giscard. Il l'a dévoré. Et en plus, sur le gâteau, il m'a dit, Babette, ça tombe bien parce que je suis le président du club de pizza dans la commune où il habite. Et après, quand il a dit ça, il y a la banane, tout le monde était coincé, tout le monde s'était coincé.
Alors, les acras de morue, ça c'est un grand mystère parce que ça peut être très bon comme très mauvais. Quel est le truc ?
Les gens ne savent pas faire les acras de morue. Les acras de morue, c'est simple. C'est farine, même quantité d'eau, même quantité de farine, même quantité de morue et même quantité d'herbe. Et on mélange le tout. Vous mouillez tout doucement pour pas que la pâte soit liquide. Quand la pâte est un petit peu épaisse, pas trop, vous mettez la levure. Vous remuez tout ça, vous goûtez pour voir si le sel est à point parce que c'est la morue qui doit saler. Et après, vous laissez reposer la pâte. Vous prenez une petite cuillère de pâte, vous mettez dans l'huile chaude. Si ça monte tout de suite, c'est formidable.
D'accord,
si
c'est
ça. Et si ça monte pas tout de suite, il faut rajouter un petit peu plus de levure et voilà, ça le fait. On retourne là-bas où tu m'as pris. Là.
À la case.
Oh là là, oui.
Qu'est-ce qu'ils vous apportent, ces livres ? Quand vous publiez un livre, quel est l'impact sur votre image et sur votre travail de chef cuisinière ?
J'apporte du bonheur aux gens en écrivant un livre. Je leur apprends comment accommoder les restes. Comment il y a un reste de légumes, il ne faut pas jeter. On a une vieille mangue, en soi-disant j'ai une vieille mangue, il ne faut pas jeter. On a une vieille banane, t'as acheté. Non, il ne faut pas jeter. On ne jette rien, on transforme tout. Le rôle du cuisinier, c'est ça, transformer. Pas jeter. Je suis anti-gaspi, moi.
Alors, vous savez qu'au Québec, notamment, il y a des chefs cuisiniers qui fonctionnent comme ça, sans rien jeter. Y compris les pelures de tomates, la peau. On peut en faire quelque chose.
Des légumes, de tomates, de carottes et tout ça. Je mets tout ça dans une marmite, je l'assaisonne avec des bouillons de cubes et ça me fait un bouillon. Et ce bouillon-là me sert à cuisiner autre chose. Au lieu de cuire le riz avec de l'eau, tu le cuis avec le bouillon et c'est déjà parfumé. Il ne faut rien jeter, les arêtes de poisson, les têtes de poisson, on ne jette rien.
Voilà, c'est ça. La culture créole, c'est aussi
ça. C'est ça.
Merci, Babette.
Il ne faut rien jeter. Et on disait aussi, il faut rien laisser dans l'assiette, mais moi, je laisse toujours dans l'assiette.
C'est vrai, qu'est-ce que vous laissez ?
Bon, je sais pas, j'ai une petite faim, donc je peux pas tout manger. C'est peut-être pour ça que je ne grossis pas. Moi, j'aime pas le gros manger dans l'assiette. Je mange à ma faim. Peu, mais bon.
C'est ce qu'on conseille d'ailleurs. Et c'est vrai que quand on écoute son corps, on l'entend nous dire ce dont il a envie. Et on mange en fonction de ça, en petite quantité.
Et quand il n'a plus envie, il te dit arrête.
Et on est sûr de ne pas grossir et de bien s'alimenter.
Voilà, parce qu'il y a des gens aussi qui prennent un malin plaisir à manger, à s'éclater la panse pour rien. Non, non. Il faut savoir doser la nourriture. C'est ça le secret aussi de bien s'alimenter.
Merci beaucoup, Babette de Rosière.
Merci.
Votre livre, tout simplement, Babette, manger sans se priver et sans prendre de poids. Donc, c'est le dernier livre en date, mais il y en a plein. Il y a le festin créole aussi qu'on peut trouver encore.
C'est formidable. J'en ai écrit 14 livres.
14 livres qu'on trouve évidemment dans les bonnes librairies. Merci, Babette. Et après cette escale dans les îles de la France d'outre-mer, je vous emmène dans les librairies francophones de nos chroniqueurs libraires. Cette semaine, nous leur avons donné une mission, trouver le coup de cœur et la déception de cette rentrée littéraire de janvier. Faisons donc un point en ce début 2018, un mois avant le printemps, afin de vous aider en quelque sorte dans vos achats de livres. Jérémy Laniel, vous représentez donc le Canada. On commence par votre coup de cœur ou par votre déception ?
Ma déception, allons-y.
Ça change pas. Allons-y. Il adore les coups de gueule. Allez-y.
Alors, il s'agit de L'inextinguible de Maxime-Olivier Moutier. Bon, Moutier, un personnage assez bien connu sur la scène littéraire québécoise, plus d'une dizaine de livres à son actif. Oui. On sait que l'écrivain adore être là où on ne l'attend pas, mais ici, avec 15 entretiens fictifs le mettant lui-même en scène, il pousse un peu trop la note du jeu sur le « je » et le « moi » et nous sert un livre, bon, plutôt décevant, disons-le.
D'accord. Et donc, le coup de cœur?
Le coup de cœur serait pour le dernier roman d'Éléonore Létourneau. C'est une écrivaine qui roule sa bosse depuis 6 ans. C'est son 3e livre. Avec ce titre, Il n'y a pas d'erreur, je suis ici. C'est publié chez Quai numéro 5. Un livre assez classique quand on suit un quinquagénaire, crise de la cinquantaine, décide de quitter le Québec. Un aller simple pour Venise, peut-être trouver la personne qu'il aurait pu devenir. Vous voyez, tout est cliché et casse-gueule dans cette prémisse.
Ouais.
Et pourtant, Éléonore Létourneau le fait avec finesse, avec une connaissance de ses personnages. Un roman dont on va parler trop peu, mais qui vaut vraiment la peine d'être lu.
Très bien. Eh bien, on en parle ici. Éléonore Letourneau, il n'y a pas d'erreur, je suis ici. Merci Jérémy. Dominique Bressoux pour la Suisse. Quel livre avez-vous aimé, vous, en ce début 2018? Lequel faut-il absolument acheter chez vous?
Alors moi, je dirais « Prendre l'eau » de Julien Bury. En fait, c'est assez rare, pour pas dire rarissime, de lire un polar poétique. Et c'est pour ça que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce livre. Parce qu'un crime est commis, il n'y a pas de doute, les protagonistes vont essayer de découvrir la vérité, ou parfois de la cacher. Mais en fait, le personnage central, c'est le lac Léman. Il scintille, il vibre, il va apaiser, angoisser, absorber ce qu'il contemple. Alors en fait, le lac Léman, pour vous et pour beaucoup de monde, c'est une carte postale en 3D.
Non, pas
mais
forcément.
Julien Bury nous le montre superbement,
d'accord,
tel qu'il est vraiment.
Prendre l'eau, c'est aux éditions Bernard Campiche.
Voilà.
On salue d'ailleurs, grand éditeur suisse. Et donc, la déception?
Alors la déception, une petite déception. Hein. C'est Janvier de Julien Bouissou, aux éditions de L'Olivier. Alors, il y a des livres comme ça dont tout le monde ne dit que du bien. Les critiques, les grands lecteurs, bref, tous ceux qui servent de référence. Et finalement, c'est ça le problème. En fait, Julien Bouissou, moi, j'aime bien.
Ouais.
Et je m'apprêtais à passer un bon moment.
Et
le sujet est original. Mais c'est pas du tout. En fait, je le conseillerais quand même.
Ah bon?
Mais j'ai pas ressenti le même enthousiasme que d'autres.
D'accord.
Et peut-être que le sujet m'a trop angoissée, parce que l'idée d'être oublié dans un bureau, c'est assez dur quand même.
Ça dépend quel bureau. Merci beaucoup, Dominique. On reste en Suisse avec Bruno Pellegrino dans un instant, avec qui nous tenterons de comprendre comment certaines vies peuvent se vivre dans la lenteur, la contemplation et la sobriété. Est-ce cela une vie glauque? Réponse juste après le nouveau titre de Benjamin Biolay en duo avec Chiara Mastroianni dans votre librairie francophone.
27 Rue Fox présente rien qui n'ait d'importance. Ton corps me tente, je me sens tombé pour la transe. Oh, oh, dans ce bungalow, s'emboule la facette. L'amour, l'amour, dans la nuit sans étoile. L'amour, 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 toujours. Des étoiles plein les yeux. Alors je sors et je rentre. Tu balades tes mains sur mon corps.
Benjamin Biolay et Chiara Mastroianni encore dans la librairie francophone.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
RTBF La Première.
Ici Radio-Canada Première.
France Inter.
Je dois dire que le début de ma création poétique remonte à une grande balade, oui, c'est bien le mot, que j'ai faite. Je me souviens très bien de l'année, c'est en 1916. C'est une balade qui a duré 4 jours, très exactement. C'est une façon, justement, de rejoindre un état singulier de soi-même qu'on ne peut pas découvrir dans des circonstances normales.
Sur la voix de Gustave Roux, nous recevons Bruno Pellegrino, qui est dans la librairie pour son roman « Là-bas, août est un mois d'automne ». Alors vous êtes un jeune auteur suisse, vous racontez la vie de Gustave Roux, mort en 76, grand écrivain photographe, grand poète, qui fut considéré comme le maître après la mort de Ramu. Il vit dans une petite commune suisse à l'époque, à l'écart du monde, avec sa sœur, comme s'ils étaient les derniers survivants, car après eux, la famille va s'éteindre.
Ce sont les derniers. Lui était homosexuel dans un monde rural où il était impossible de le vivre. Il a aussi choisi de ne pas partir, de ne pas quitter son village pour aller en ville. Et elle a en quelque sorte reçu la tâche de rester pour son frère, ce qui nous paraît, alors en effet, glauque, c'est peut-être le mot aujourd'hui.
Qu'est-ce que c'est le glauque ?
Je ne sais pas. Mais en tout cas, dans le livre, j'ai choisi de faire de Madeleine une personne qui choisissait ça et qui choisissait d'être là, dans la maison, pour continuer jusqu'à ce que...
C'est presque un sacrifice, en fait.
Ça relève un peu du sacrifice, ouais, je pense.
Ouais. Et il y a cette ambiguïté sexuelle chez Gustave Roux. En tout cas, vous le présentez un peu comme ça. Hein. Comme s'il avait dissimulé toute sa vie sa préférence pour les garçons. Comme s'il avait lui aussi sacrifié sa vie pour ne pas assumer ce qu'il est.
Je pense que c'est difficile aujourd'hui de lui mettre cette étiquette de ne pas avoir assumé. Je pense qu'au contraire, il l'a...
C'est ce que vous laissez entendre, Bruno.
Alors peut-être c'est ce que vous avez lu. Ouais. Moi, ce que j'ai voulu dire, en tout cas, c'est qu'il l'a pas vécu comme je l'aurais vécu, par exemple, ou comme on aurait aimé qu'il le vive, je sais pas. Ouais. Ce qui est sûr, c'est qu'il a, dans ses textes, et en particulier dans ses photos, il a pris beaucoup de photos, il s'en est pas caché, il s'est pas caché de ce désir.
Oui, c'est-à-dire qu'il photographie des agriculteurs torse nu dans sa campagne.
Entre beaucoup d'autres choses, mais oui,
oui,
effectivement.
C'est ça, notamment c'est ça qui est connu.
C'est ça qui est connu,
ça qu'on trouve sur Internet facilement.
Mais même dans ses textes, en réalité, c'est assez limpide. Donc je dirais pas qu'il l'a pas assumé, mais en tout cas, il l'a pas vécu de manière traditionnelle.
Alors pourquoi vous laissez entendre comme ça que c'est un peu malsain parfois, quand il croise des adolescents? Vous dites comme ça qu'il est un peu excité. Enfin, c'est assez bizarre comment vous le décrivez. C'est pour ça que je suis étonné de vous entendre dire
peut-être
ça.
Peut-être que c'est le lecteur ou la lectrice qui trouve ça malsain. Moi, j'ai pas tenté de poser de jugement là-dessus. Je pense que lui-même était...
Avec des ados aussi, c'est malsain.
Ok, c'est une opinion.
Si, parce qu'il a 60 ans quand même.
Il a 60 ans. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai pas essayé de poser de jugement du tout. Et ce qui m'intéressait, c'était de voir comment cet homme-là a pu vivre ces choses-là. Mm-hmm. Quel regard il a pu porter. Et en effet, lui s'en voulait beaucoup. J'ai pas cherché à l'accabler plus que ça.
Ouais, d'accord. Bon, vous décrivez une vie bien plate, en tout cas, bien terne, fondée sur la contemplation. Est-ce cela une vie glauque, une vie fondée sur la contemplation?
Mais alors pour moi, le glauque et la contemplation n'ont rien à voir l'un avec l'autre, du tout. Et pour moi, c'était pas des vies glauques, du tout. Ouais. C'est pas des vies que j'envie, c'est pas ce que j'aimerais pour moi.
Ouais.
Mais au contraire, c'est des vies qui font du bien, j'ai l'impression, par contraste avec une certaine suractivité que je ressens aujourd'hui dans ma propre vie. Et de voir ces deux-là prendre le temps, se poser, observer, et oui, contempler. Non, je vois rien de glauque là-dedans.
Bon, en tout cas, il écrit des poèmes très beaux, souvent assez sombres. Vous avez accepté de nous en lire un sur une musique qui serait, selon vous, la BO de votre roman. Cette musique, vous avez choisi la chanson de Dalida, Parle plus bas.
Qui est en fait sortie en 72, en 72,
oui.
Et qui apparaît du coup très brièvement dans le livre. Oui. Il l'entend dans un café.
Exact. On va écouter un peu de Dalida et votre lecture du poème.
Parle plus bas.
Entre les roses noircies et ses traînées de bave orange, hier encore capucine, un astère tend ses rameaux de fleurs fripées, tremble silencieusement, supplie. Détresse pour détresse, il n'est pas d'abîme entre celle des plantes et celle des hommes. L'absolu d'une solitude les rapproche jusqu'à l'échange. J'ai vécu cette mutuelle pitié. C'est pourquoi j'entends l'appel à peine balbutié là-bas dans la bise.
Ça, c'est pas une chanson symphonique sur la poésie de Gustave Roux. Merci Bruno Pellegrino.
Le mélange est inattendu, j'avoue.
C'est pas mal, ça sonne bien.
C'est pas mal.
C'est vrai qu'il saisit comme ça chaque détail du monde. Sa poésie a beaucoup de souffle. La chanson qu'on a entendue a beaucoup de souffle aussi, mais c'est vrai que quand on lit la poésie de Gustave Roux, il y a un souffle incroyable.
C'était quelque chose de très important pour lui. Il appelait ça surtout la mélodie. Et oui, il a écrit très peu de livres. Hein. Il a écrit longtemps et très peu. Mmh. C'est pas pour rien. C'est qu'il travaillait énormément ses choses, ses phrases, ses recueils, tout, à chaque niveau.
Bon, il y a 4 libraires qui ont lu votre roman, Bruno. La Suisse, la France, le Canada et la Belgique. Donc, on commence par qui ?
Le Québec.
C'est pas le plus facile, hein, vous prenez des risques.
D'accord.
Jérémy Laniel.
Oui, bien, d'entrée de jeu, mentionnons qu'on en a un peu soupé des biographies romancées. Voilà. Hein. J'ai un petit relent de nostalgie pour le bon vieux roman. Oui. Mais ça, Emmanuel, c'était avant d'être happé par le talent de Bruno Pellegrino. Ah. Ici, l'auteur se donne toutes les libertés de la langue, sans jamais trop appuyer sur la phrase, sublime le quotidien, réenchante le monde, habitant le paysage. J'ai envie de dire qu'on tient ici un grand livre.
Mais bon. C'est très rare chez Jérémy Laniel. Et il y a Déborah Damblon qui est avec nous aussi. La douceur de Déborah en Belgique ?
Oui, parce que moi, en lisant votre roman, j'ai eu l'impression de me trouver devant un tableau impressionniste. Vous savez, où il y a plein de touches de couleurs qu'on trouve assez belles séparément. Et puis, côte à côte, elles forment un tout harmonieux. Eh bien, avec votre livre, j'ai eu cette impression. Je trouve qu'il nous force à prendre le temps, qu'il nous force à nous laisser faire et à accepter vos personnages comme ils sont. Et moi aussi, j'ai aimé ça.
Bien. La Suisse ou la France ?
La Suisse.
Il hésite. Bon, allons-y. La Suisse, Dominique Bressou, qu'en pensez-vous ?
Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec les deux autres libraires. J'ai absolument adoré ce livre. Et puis, normalement, si j'aime un livre, je le referme pas avant la dernière page. Mais là, pas du tout. J'ai relu plusieurs fois certaines pages, je les refermais pour rêver. Parce qu'on entre dans la vie de Gustave et Madeleine comme dans une lente promenade. C'est un pur délice de savourer cette incursion dans ce temps où les obligations, c'était plutôt des habitudes, où chaque geste, chaque mot avait son importance. Moi, j'ai trouvé que ce livre apaisait et rendait serein.
Eh bien, Bruno, heureusement que notre libraire français a détesté votre roman. Thomas Hausser, c'est à vous.
Oui, bah alors, bah non, en fait, je suis désolé, Emmanuel.
J'essaye, je tente.
Oui, c'était tenté. Moi, je suis rentré dedans immédiatement. Alors, je veux dire que c'est un roman où il se passe pas des tonnes de choses, mais on est dedans, un petit côté contemplatif, on l'a dit. Et puis, bah, voilà, l'écriture, franchement, oui, c'est. Moi, ça m'a beaucoup plu. C'est un texte très fort. Je pense qu'on va vraiment le recommander très chaudement à la librairie.
Carton plein, Bruno Pellegrino.
Je suis très touché, oui.
Vous avez l'air très ému, oui.
Voilà, c'est super, merci à tout le monde.
Bon, vous écrivez, c'est peut-être ce qui me fascine chez ces deux-là, leur manière lente et savante d'éprouver l'épaisseur des jours. Est-ce rassurant ou inquiétant pour vous, qui avez 30 ans presque, Bruno, de savoir qu'une vie peut être une simple constatation des événements qui nous arrivent et une contemplation de ce qui nous entoure, rien d'autre, rien de plus ?
Je sais pas si c'est rassurant. C'est peut-être en tout cas la seule manière que j'aime, moi, d'affronter les choses, en fait, c'est de constater. Toute la démarche d'écriture a été tirée par cette question-là. Pourquoi est-ce que je fais ça ? Est-ce que ça me rassure ? Est-ce que ça m'inquiète ? Est-ce que je trouve ça bizarre, glauque, génial ? C'est cette question-là qui m'a poussé à écrire le livre jusqu'à la fin. Et en fait, j'y ai pas répondu tout
d'accord.
à fait.
On n'avait toujours pas la réponse, là.
Non, je pense que c'est très bien. Ça me ferait écrire d'autres livres.
Merci beaucoup, Bruno Pellegrino. Là-bas, août est un mois d'automne. Sacré titre, hein, Bruno.
Oui, c'est une phrase du livre.
Ouais, c'est vous qui l'avez choisi ?
Oui.
Et c'est paru chez Zoé.
C'est ça.
Merci à vous. On part en Inde à présent pour poursuivre ce grand voyage culturel avec un livre qui vient de sortir en poche et avec l'auteur indienne Shumona Sinha. Son roman Apatride, qui raconte le chaos urbain et social de Calcutta, a fait réagir Jean-Claude Carrière, l'un des grands spécialistes de l'Inde. Il nous en a lu un extrait. On écoute cet échange à distance entre Carrière et Shumona Sinha.
সজনী এলো না ঘরে আধার পোহালে সজনী এলো না ঘরে আধার পোহালে হে কি প্রেমের হাওয়া লেগে
En sortant du cybercafé, Marie avait la migraine, comme souvent depuis son arrivée à Calcutta. Là-bas, les voitures, bus, camions, charrettes, pousse-pousse, piétons, colporteurs et mendiants criaient, râlaient, klaxonnaient, sciaient l'air de la ville dans leur course exaspérée, jusqu'à ce que tout s'en mêle en un embouteillage chaotique. Les cris des haut-parleurs secouaient les jours et les nuits jusqu'au fin fond de la campagne. Les prières du temple rivalisaient avec les chansons de Bollywood diffusées par les clubs de jeunes à chaque carrefour pour annoncer les séances de cinéma en plein air ou les meetings des partis politiques. Les militants sillonnaient les rues en pousse-pousse, micro à la main, et distribuaient des tracts. Marie ne comprenait pas que les gens ne puissent communiquer sans crier, qu'ils ne soient pas encore tous devenus sourds, comme si le silence leur faisait peur, qu'ils aient besoin de ce vacarme en permanence, sans doute, pour avoir l'impression d'exister.
Une réaction à ce texte, Jean-Claude Carrière.
C'est une image de Calcutta que je connais bien, que j'apprécie beaucoup. C'est une ville où je suis allé souvent et que j'aime. C'est la capitale intellectuelle de l'Inde. Mais il est vrai que l'image qu'on nous en donne ici est celle d'un chaos. C'est souvent le cas, pas toujours. Calcutta, moi je l'aime parce qu'il y a 10 000 libraires. C'est la ville du monde où on lit le plus. C'est une ville étrange. J'ai assisté à des manifestations de montreurs de serpents venimeux. On parlait de les interdire, ils défilaient dans les rues en brandissant à deux mains leur gros serpent, leur gros cobra. On y voit des choses vraiment extraordinaires, comme partout en Inde, bien sûr.
Qu'est-ce qui vous a donné cette envie, cette passion pour l'Inde ?
C'est totalement professionnel. Je ne connaissais pas l'Inde avant que nous décidions, au début des années 70, avec Peter Brook, d'adapter au théâtre et puis au cinéma et à la télévision le Mahabharata, qui est une des deux grandes épopées indiennes, la plus longue et la plus importante sans doute, l'autre étant le Ramayana. À partir de là, il a fallu d'abord connaître ce poème, et ensuite, comme il contient toute l'Inde, dès que nous avons commencé à aller en Inde, nous nous sommes rendus compte que nous devions connaître l'Inde jusque dans les moindres recoins. La dernière fois où j'y suis allé, il y a 2 ans, j'ai fait le compte, c'était mon 46e séjour. Quelque chose m'y attire, je ne peux pas faire autrement, et je suis sûr que chaque fois, je le dis aux amis qui m'accompagnent ou à ma femme, dans la première demi-heure, nous allons voir quelque chose que nous n'avons jamais vu avant.
Jean-Claude Carrière, très intéressé par votre roman Shumonasina, ce vacarme pour avoir l'impression d'exister, comme vous l'écrivez, c'est aussi une façon de noyer les différences ?
Toutes ces discriminations économiques, sociales, religieuses, elles existent terriblement en Inde, partout. Et justement, ce qu'il a dit, très justement, Jean-Claude Carrière, c'est que Ramayana et les Mahabharata, ce sont des grandes épopées qui ont vraiment incité la haine communautariste chez les hindouistes fanatiques à l'égard des musulmans.
Ah, qui ont incité la haine, oui.
Et même, les plusieurs émeutes communautaristes ont eu lieu en Inde, en 1947, au moment de la partition en Inde, évidemment, mais après, en 1992-2005, notre premier ministre, chef d'État indien, Narendra Modi, il représente, il est élu de BJP, mais il était aussi membre militant de RSS, faction coalition de BJP qui est actuellement au pouvoir en Inde. Eh bien, un militant de RSS avait assassiné Mahatma Gandhi.
Oui, c'est ça. On ressent dans votre roman une forme de paranoïa qui vient de toutes parts. En France, avec le regard des autres. À Calcutta, avec les possibles manipulations politiques des militants. Il n'y a pas de place pour ces trois femmes, vos personnages.
Malheureusement, non. Dans le roman, c'est-à-dire que notre corps, corps de la femme, corps de l'homme, notre corps, c'est notre premier territoire, c'est notre pays, c'est notre premier espace, c'est notre pays. Si on nous ôte les droits qu'on a cru acquis, jusqu'ici, qu'on se soit en Inde, qu'on se soit en Europe, dans plusieurs pays en Europe, ou aux États-Unis, si on nous ôte les droits pour décider sur notre propre corps, c'est-à-dire on nous ôte, on nous chasse, on nous déloge dans notre corps, dans notre territoire, dans ce cas-là, on devient toute apatride. Par contre, il faut que je mentionne également qu'il y a beaucoup de mouvements féministes qui ont eu lieu en Inde, qui continuent à fonctionner. Et ce n'est pas ce qui est bien encore, c'est que ces mouvements féministes-là ne sont pas contrôlés, dirigés uniquement par les femmes féministes intellectuelles de la haute société. Vous voyez, il y a des femmes massivement, les paysans, ouvriers, dans les villes, dans les grandes villes, dans les villages.
Qui se mobilisent aujourd'hui.
Qui se mobilisent, qui sont dans la rue.
Et le livre de Shumona Sinha, Apatride, est paru en poche la semaine dernière chez Point. À suivre, un autre livre de poche signé Julien Delmer, qui est la révélation de la librairie francophone. Nous irons aussi à la rencontre d'une éditrice togolaise. Et les libraires vous parlent de leur coup de cœur et déception de ce début 2018 en librairie. De l'Inde, on part en Afrique avec le chanteur malien Salif Keita. Voici Madane, et c'est le tube francophone de cette semaine. Salif Keita avec Madane, titre de 2002 sur ici Radio-Canada Première, RTBF la Première, la Première de la RTS et sur France Inter.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Et donc, ce week-end, la librairie vous fait voyager. Voici un second livre de poche que nous vous conseillons fortement. Un petit budget pour un très grand livre, le prix d'un paquet de cigarettes. Quand on dit ça, ça laisse songeurs les fumeurs qui pourraient se constituer une formidable bibliothèque de livres de poche, rendez-vous compte. Bref, ce n'est pas le sujet. Julien Delmer a donc publié Frères des Astres, un roman de voyage poétique qui vient de sortir en poche et qui est notre grand coup de cœur. Le chanteur Abd al-Malik a lu un extrait de l'histoire de ce vagabond céleste et mystique.
Auprès des hommes, les désillusions se multiplient. Subjugués par les écrans, leur cerveau pixelisé par l'angoisse de n'être pas moderne. Ses contemporains sont pour lui un mystère insondable. Le pauvre hausse les épaules, fait son office d'hirondelle et picore les miettes. En ville, il regarde les gros titres des magazines dans la vitrine des tabac-presse, récupère un journal chiffonné. Quand la France entière célèbre la trajectoire d'un ballon dans un filet, le pèlerin est au désert à shooter dans une pomme de pin. La Loire roule son sillage limoneux, la faim laboure ses chairs. Benoît est un corps en mouvement, un corps migrant, un corps radieux. Et ce siècle n'a plus de mythe qui puisse le porter. Au Moyen-Âge, il aurait été le juif errant, le colporteur de l'intervalle. En Amérique, il serait peut-être un hobo, monté en fraude, à bord d'un wagon d'éternité. Un harmonica au coin de l'âme.
Merci Abd al-Malik.
Merci à vous.
Malik avec un extrait de Frères des Astres de Julien Delmer. Une réaction, Julien Delmer?
Oh, je suis super content là, parce qu'effectivement, moi j'avais beaucoup aimé Gibraltar, j'ai beaucoup aimé le dernier album là, de Malik, la musique de Garnier est super.
Oui, oui, oui.
Et puis voilà, moi c'est vrai que c'est quelqu'un que j'écoute depuis super longtemps, depuis son premier groupe de rap, NAP à Strasbourg, donc il lit très bien. Non, je suis ravi, c'est la bonne surprise du jour là.
Bon, Julien Delmer, quand il arrive à Paris, votre personnage, toujours par la route, en suivant donc les rails d'un train qui va à Gare du Nord. Il est émerveillé par cette métropole cosmopolite et en même temps, il s'y perd un peu. C'est un monde trop vaste, un monde trop métissé pour lui.
Ben, disons que oui, c'est un petit gars du Nord qui a grandi dans un village, même du Pas-de-Calais, donc qui est quelqu'un qui a plus l'habitude de côtoyer effectivement des petites communautés d'hommes. Mais je pense que c'est une immersion finalement qui le déniaise un peu. C'est quelqu'un qui, on pourrait dire aujourd'hui, est une sorte de beatnik, voire même de babacool, et puis il découvre l'envers du décor, c'est-à-dire la ville avec ses vices, avec ses travers, avec sa vitesse. Mais il a quelqu'un pour l'accompagner qui s'appelle le colonel, et il pouvait pas mieux tomber. C'est une sorte de routard urbain, lui. Donc,
mais c'est vrai qu'il cherche pas à porter la parole. C'est un pèlerin très moderne, un pèlerin qui a la foi quand même, hein, parce que il vit sur la route comme ça, avec son corps, avec cette foi. En quoi il croit vraiment? Est-il religieux? Tiens, je me suis posé la question, moi.
Bah, le personnage dont je me suis inspiré, Saint-Benoît Labrie, est un grand mystique.
Mais
chrétien.
Le vôtre?
Moi, je dirais, alors je ferai la même réponse que celle que faisait Bob Marley quand on lui demandait quelle est votre religion. Il disait, ma religion, c'est la vie. Il célèbre la vie dans toutes ses acceptations. Après, oui, il y a une dimension chrétienne parce qu'il vit à l'exemple du Christ. Ça m'a permis d'ailleurs, en écrivant ce livre, de relire l'évangile et de me rendre compte que finalement, il y avait aussi un côté roadbook dans l'évangile. Après tout, qui c'est Jésus vrai. Part de chez son père, parcourt la Galilée, la Judée Samarie à pied. Donc voilà, il y a aussi un côté beatnik dans l'évangile.
Et, dans tous les livres sacrés, vous savez,
tout
finalement.
Tout à fait.
Bon, c'est vrai qu'il est nu comme ça à tous les sens du terme, la nudité c'est important dans ce livre, mais son idéal est un peu dérangeant, Julien Delmer, si je peux me permettre, parce que à vouloir être pauvre, comme ça il le dit à un moment, hein, vouloir être pauvre, affamé, tributaire de la charité, c'est une condition que beaucoup ne choisissent pas, alors que lui il aurait pu rester auprès des siens.
C'est très juste la distinction que vous pointez. À un moment, à Paris, il rencontre justement, il prend un repas dans un centre qui héberge des SDF, et cette misère-là, cette misère subie, le déconcerte, le fait pleurer à chaudes larmes, parce que lui, c'est vraiment un dépouillement volontaire. Mmh. Lui, vraiment, il est dans cette logique de sobriété. L'idée, c'était justement peut-être, par un exemple extrême, parce que même au sein de l'Église catholique, le Saint-Benoît-Labbé est toujours ambigu, hein, parce que c'est, voilà, je me rappelle qu'une, c'était le pape Benoît XVI qui disait, c'est un modèle, mais c'est pas un exemple. Ouais, voilà, c'est quand même, vivre l'Évangile, si tous les chrétiens se mettaient à partir sur la route comme ça, à pieds nus, évidemment, je pense que ce serait compliqué. Donc,
non, maintenant, on a inventé Compostelle.
Hein, voilà, c'est un peu plus soft. Non, mais je pense que voilà, c'est une pauvreté qui est plutôt de l'ordre de l'allègement.
On va voir du côté de nos libraires ce qu'ils ont pensé de votre roman, Julien Delmer. En France, Grégoire Courtois, le pire.
Non, c'est pas du tout pire. Moi, j'ai
été... étonnant, dites donc, cette fois.
Ouais, bah,
pour
ouais,
une fois.
J'aime un livre, profitez-en. Non, mais c'était une très belle surprise pour moi parce que je connaissais pas du tout. Il était
miracle.
Complètement passé à côté de.
C'est l'évangile.
Non, mais le fait est que c'est un style absolument superbe qui est flamboyant sans être mièvre ou ridicule parce que c'était un vrai risque. Hein, là, Julien Delmer a vraiment tenté un style qui était vraiment très, très à la limite. Tout est à la limite en fait dans le livre. C'est assez étonnant. On a une alchimie qui est réussie. On ne sait pas comment ça tient, mais ça tient. Il y avait un truc qui ne tenait pas sur le papier et puis finalement, quand le roman est écrit, ça tient.
Jérémy, pour le Canada, êtes-vous d'accord ?
Je vais me joindre au concert des loges, comme tout le monde. Hein? Quelle surprise! C'est le genre de livre qu'on a hâte de relire, qui parvient à être initiatique sans être kitsch, sans tomber dans le grossier. Et ça, c'est pas facile. Un livre qui, un peu comme Benoît, est une surprise singulière qu'on n'avait pas prévu rencontrer sur la route.
Commentaire positif de Jérémy Lagniel. Vous l'avez entendu, le roman de Julien Delmer, Frère des Astres, est paru en poche au Livre de Poche. Les libraires vous donnent donc ce week-end aussi leur coup de cœur et leur déception parmi les nouveautés de ce début 2018. Pour guider vos achats en librairie, c'est le tour de Thomas Auxerre pour la France. Thomas, déception, coup de cœur, on commence par
Par un coup de cœur, un premier roman de Fanny Tonnelier qui s'appelle Pays provisoire aux éditions Alma. Oh, bah là, vous êtes au début du 19e. Vous suivez Fanny qui s'en va vers la Russie. Elle va vendre des chapeaux. C'est une modiste. La guerre arrive, c'est la fin du tsarisme et elle revient en France. Elle va traverser 4 pays en guerre et elle va retrouver les petits ateliers que moi j'ai découverts. C'est un bonheur ce livre. C'est exaltant. Ah, c'est vraiment super. Un premier roman, un coup d'essai, une réussite.
D'accord. Fanny Tonnelier, Pays provisoire chez Alma. Et la déception ?
Alors, petite déception, c'est un livre qui m'avait tapé dans l'œil quand me l'avait présenté mes représentants. C'est Un océan, deux mers, trois continents de Wilfried N. Sondé aux éditions Actes Sud, où là, l'auteur vous propose de suivre un jeune orphelin qui est ordiné prêtre dans le royaume du Congo en 1583. Il doit aller rencontrer le pape pour défendre ses frères esclaves, et par contre, pas de bol, il passe par le Nouveau Monde et il arrive à Rome. Alors, le truc, c'est que l'histoire m'intéressait, mais je me suis pas laissé embarquer. Il manque un souffle épique, peut-être, mais c'est quand même très bien écrit.
Oui, très bon auteur, hein, Wilfried N. Sondé, rappelons-le, qui a reçu d'ailleurs le prix des 5 continents de la francophonie.
Absolument.
Et qui est soutenu par Jean-Marie Gustave Leclésio, prix Nobel de littérature. Bon, moi, je l'ai pas encore lu, je vous dirai ce que j'en pense plus tard. Merci pour ces avis, Thomas. Déborah Damblon, en Belgique, quelle est votre déception, vous ?
Oh, une déception, Emmanuel, pas de grands mots, hein. Un petit peu un manque d'enthousiasme peut-être, parce qu'il n'y a pas assez de lumière. Mais je sais pas, une impression que toutes les rentrées se ressemblent, que c'est toujours un petit peu les mêmes têtes qu'on retrouve, enfin les mêmes têtes, les mêmes plumes, hein, je veux dire.
Ouais.
Et que il n'y a pas beaucoup de surprises dans tout ça, pas grand-chose qui nous fait frétiller.
D'accord, donc c'est général.
Oui, voilà, c'est un petit peu général.
Il y en a un qui sort du lot quand même, c'est votre coup de cœur.
Bah oui, vous connaissez mon optimisme et mon positivisme naturel.
Oui.
Alors j'ai cherché, puis j'ai un coup de cœur. Et je trouve que vraiment, s'il y a un livre dont on doit parler dans la librairie francophone, c'est celui-là, La petite voleuse de perles de Michel Plomer, parce que c'est une auteure québécoise, c'est écrit en français, c'est publié par une éditrice belgo-française, je suis sûre qu'elle a des racines suisses. Et en plus, c'est une formidable histoire romanesque qui s'est C'est plein d'aventures. C'est une jeune femme chinoise qui vole des perles, mais elle n'est pas vraiment malhonnête, je vous rassure.
Ouais.
Et puis elle achète un petit poisson et en fait, c'est un poisson fabuleux. Et ça se passe à Hong Kong. Enfin bref, c'est un super moment de
l'été. Ça foisonne, quoi.
Voilà.
Bon, La petite voleuse de perles, retenez donc ce titre avec l'auteur Michel Plomer chez Genèse Éditions. Peut-être qu'on en reparlera dans cette émission. Merci Déborah. Un autre petit reportage pour terminer cette émission avec une éditrice du Togo qui raconte la difficulté de publier des auteurs togolais qui sont déjà publiés en France. Se pose alors la question des complications de la distribution des livres à travers la francophonie.
Graine de pensée a été créée il y a une douzaine d'années. Notre ligne éditoriale, c'est clairement d'apporter à la jeunesse du Togo et d'ailleurs des ouvrages dans lesquels il se retrouve.
Alors il y a toutes sortes de livres qui sont devant vous, parce que vous en avez fait une sélection pour nous. Il y a Samitchak, par exemple, qu'on connaît très bien, qui est publié par Mercure de France, qui dépend des éditions Gallimard. Alors vous, vous avez acheté des droits pour pouvoir le publier au Togo ?
Effectivement, Samitchak est un des auteurs majeurs originaires du Togo.
Oui.
C'est via l'Institut français que nous avons pu acquérir ces droits-là, avoir les droits de Al Capone le Malien, qui initialement est vendu à une vingtaine ou 18 euros en France, et que nous, nous proposons à l'équivalent de 8 euros au Togo.
Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que pour que les livres francophones circulent dans le monde, il faut effectivement qu'il y ait des éditeurs comme vous, que de grands éditeurs puissent céder des droits à des prix raisonnables pour que ces auteurs soient lus. Et le paradoxe, c'est que Samitchak, qui est un auteur togolais, vous devez passer, vous, par la maison mère, la grande maison Gallimard, pour pouvoir le publier.
Absolument, et pouvoir le rendre accessible aux lecteurs togolais. C'est bon, j'allais dire une hérésie, peut-être pas, mais quand même, il y a quelque chose dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, on enseigne à nos auteurs de la diaspora, par exemple, de réserver leurs droits pour les territoires d'origine. Chose qui ne se faisait pas il y a une dizaine d'années.
Ce que n'a pas fait Samitchak, d'ailleurs.
Ce que n'a pas fait Samitchak.
Ces prix parfaitement accessibles, 3 euros, 8 euros au Togo, ça représente quoi pour un Togolais, 8 euros, un livre ?
Ça représente quand même encore un certain sacrifice. Je ne vais pas parler du SMIC moyen togolais, c'est dans les 50, mais ça fait moins de 100 euros. Donc, voilà. Il y a ça, mais aussi il y a le fait que les habitudes de lecture ne sont pas encore tout à fait ancrées dans la société togolaise. Pour l'instant, on lit utile. On achète des manuels scolaires, on achète tout ce qui est didactique, mais la lecture loisir est quand même encore balbutiante.
Elle est réservée aux élites, aux bourgeois, c'est ça ?
J'en ai bien peur, oui.
Yasmine, combien ça coûte d'acheter les droits de Samitchak ou d'un autre auteur? Alors je sais que c'est secret, que c'est très compliqué de pouvoir dévoiler les choses, mais à peu près.
Alors c'est aussi une question de territorialité, une question de tirage aussi. Pour 1000 exemplaires, on peut avoir à payer dans les 1200 euros par exemple.
Merci beaucoup, merci Yasmine Issaka Koubaja. Et puis bonne chance pour votre maison d'édition
merci
à Lomé.
Merci de nous donner cette visibilité-là. Merci à vous aussi.
Merci beaucoup Yasmine, à bientôt.
La librairie francophone, Emmanuel Guérad.
Et avant de conclure, coup de pouce à une découverte musicale francophone. Voici le chanteur québécois Dilarama avec un extrait des Yeux fermés.
Courir, à quoi bon courir? Reste jusqu'à demain matin si. Ensuite, tu t'éclipses, je ne dirai rien. Je n'ai pas, non, je n'ai pas perdu espoir. Redis-moi de ces choses qu'on ne dit que dans le noir. Courir, tu finis toujours chez moi. Le ciel peut s'effondrer, ça ne veut plus rien dire pour moi. Tu sais, oh oui, tu sais, je ne t'en veux pas. Je garde ton secret, silence.
Dilarama, les yeux fermés, titre que vous pouvez retrouver en intégralité sur internet. c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook et Twitter pour communiquer avec vous. N'oubliez pas les pastilles vidéo en ligne tous les week-ends sur Twitter. Un conseil de lecture inédit. À la réalisation, Henri-Marc Mutel, avec le génial Julien Dumont à la technique, Thierry Dupin à la prog musicale. À la rédaction, Jean-Philippe Verret avec Christophe Magère et Julie Leclerc en France, Martine Béguin-Follet et Annick Chouin en Suisse, René Mikkels avec Valérie Leput en Belgique, Jacqueline Castonguet et Sylvie Julien au Canada. La semaine prochaine, nous serons en partie à la Foire du Livre de Bruxelles avec le prix Russell Laurent Demoulin. Yvan Jablonka, Paul Constant et le dessinateur Barou seront aussi sur notre plateau. Je vous souhaite de passer un bon week-end et une bonne semaine. À bientôt, salut.